Après l'actu, on passe maintenant aux associations. Aujourd'hui, nous recevons le GENEPI, le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Association qui œuvre en faveur du décloisonnement des institutions carcérales, notamment par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles. Et pour en parler, ils sont là depuis le début de l'émission, mais maintenant toute l'attention se porte sur eux. Nina, bénévole, et Simon, responsable communication. Alors, le GENEPI, il a été fondé en 1976, et grâce à Florent et à Marie-Ève, quelques chiffres qui concernent maintenant l'antenne lyonnaise plus particulièrement.
Nombre de membres.
Donc 78 à Lyon, un gros groupe.
Le budget.
3 700 € en prévisionnel, si j'ai bien compris.
C'est bien ça, c'est bien ça.
Et l'antenne lyonnaise du GENEPI intervient dans 4 établissements pénitentiaires.
Corba, Saint-Quentin-Fallavier, Villefranche-sur-Saône et l'établissement pour mineurs de Mézieux.
Eh bien merci, cher Gone. Les actions du GENEPI, elles visent à recréer du lien entre la société et les personnes détenues. Et pour cela, en milieu carcéral, Simon, le GENEPI, il organise des ateliers scolaires et culturels. Ça ressemble à quoi, ces ateliers ?
Alors exactement, il y a 2 types d'ateliers. Les ateliers scolaires, ça consiste à apporter un accompagnement aux personnes incarcérées dans toutes les disciplines. Et c'est souvent un accompagnement qui se fait face à une personne. C'est donc un accompagnant et un accompagné. Et à l'inverse, les ateliers socioculturels se déroulent face à plusieurs personnes. Et c'est vraiment des activités qui permettent de sortir du cadre carcéral.
Qu'est-ce que tu réponds, Nina, à ceux qui disent « Oui, mais alors bon, les ateliers scolaires, c'est surtout leur apprendre à rédiger un CV ».
Non, pas du tout, en fait. Ça dépend quelle est la demande. Là, par exemple, il y a le centre de semi-liberté en plus cette année que les 4 établissements déjà cités. Où là, par exemple, il y a eu une demande de l'administration pénitentiaire d'effectivement pouvoir rédiger des CV, etc. Bah, s'il y a une demande, en fait, pour ça spécifiquement, oui, alors on pourra aider les personnes à rédiger un CV, mais il y a des personnes, par exemple, là, cette année, on a un basque qui demande de pouvoir... c'est de la psychologie, il repasse sa licence de psychologie. Simon, l'année dernière, accompagnait une personne qui repassait sa licence de droit, donc étant
donc
en première année.
C'est vraiment très personnalisé, hein, ce que vous faites comme accompagnement, ouais. On l'entend bien, d'ailleurs, le terme d'accompagnement même.
Plus d'être personnalisé, c'est même très libre, je dirais. C'est parce que aborder un atelier scolaire, par exemple, c'est la personne qui va l'animer va avoir la liberté vraiment de soit de l'envisager comme un TD, comme des cours, pourrait-on dire, soit ça va pouvoir être fait de manière très créative et très, très alternative.
Et justement, vous êtes accueilli comment par les personnes détenues ? L'accueil qui vous est réservé, est-ce qu'il est positif ?
Ah,
est-ce
oui.
qu'ils sont en demande de ça ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est chaque relation est unique, même dans une relation de ce type, d'accompagnant-accompagné. Mais de par mon expérience, je peux dire que oui, c'est généralement très, très positif.
Mais les personnes que vous recevez, c'est déjà des personnes qui ont la volonté de faire cette démarche-là ou c'est vraiment vous proposer à tout le monde ?
Alors, cette question est difficile. c'est souvent des personnes qui ont la volonté de le faire, en scolaire toujours. Mais après... cette volonté, elle peut être portée par des motifs qui vont être de l'ordre de leur situation de personne incarcérée, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est incarcéré, avoir un bon dossier, ça passe aussi par des activités au sein de la prison. Et du coup, il se peut que parfois le GENEPI soit instrumentalisé dans ce sens-là, pas que le GENEPI d'ailleurs, toutes sortes de formations en prison.
Alors on parle du lien et de l'accueil qui vous est réservé, avec parfois des idées derrière la tête des personnes détenues. Quelle est, Nina, la relation qu'entretient le GENEPI, cette fois-ci, avec l'administration pénitentiaire ?
Assez bonne. Mmh. Enfin, on essaye en tout cas qu'elle soit assez bonne pour maintenir justement le partenariat qu'on a depuis de nombreuses années. Après, parfois c'est un petit peu compliqué comme... de partout, je pense, parce qu'on est des personnes intervenantes, bénévoles, donc ça veut dire des personnes extérieures. Donc il y a aussi une relation de confiance qui doit se créer avec l'administration pénitentiaire. Je pense qu'on a réussi à l'avoir, le tout c'est de ne pas tout gâcher en fait.
Alors justement, vous ne gâchez pas tout, vous retissez du lien, ça c'est hyper important. Alors on a vu à l'intérieur des prisons, mais le lien c'est dans les deux sens. Hein. Et c'est pourquoi vous menez également des actions sur la place publique pour informer, pour sensibiliser sur la réalité de la prison en France. C'est nécessaire, on la connaît mal la réalité de la prison en France quand on n'est justement pas en prison.
Oui, il y a beaucoup de de clichés en fait quand même.
Comme quoi, comme clichés par exemple?
Comme Enquête Exclusive, M6.
Oui, ils sont véhiculés par les médias, les clichés. Oui, c'est à cause des médias qu'il y a des clichés.
Oui, c'est sûr. Enfin, moi, le premier atelier où je suis allée au centre de Corba, la première chose qu'une des personnes détenues m'a dit, c'est « Ah, t'as regardé l'Enquête Exclusive, alors tu dois savoir tout sur nous en rigolant. » Et il a voulu que je lui pose des questions en fait pour casser derrière... tout ce qui avait été dit la veille, en fait.
Oui, parce que Simon, la réalité, c'est évidemment loin d'Enquête Exclusive. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Puis ces clichés, en plus d'être véhiculés par les médias, à mon sens, ils sont renforcés par cette zone d'ombre véritable qu'est la prison.
D'où l'importance de sensibiliser, d'informer le public. Et une fois n'est pas coutume, hein, chers auditeurs, pour la playlist, hein, vous le savez, on quitte la scène musicale lyonnaise et on se la joue thématique au plus grand bonheur de Florent. On commence donc avec un extrait de Méprison d'Alain Bachung, issu de l'opus mythique Fantaisie militaire, qui bénéficie d'ailleurs en cet automne d'une réédition avec inédits et versions de travail, ainsi que d'une édition sous forme de livre CD. Bref, cher Père Noël, si tu m'écoutes, en haut de ma liste, il y a forcément le grand Chung Baba, monsieur Alain. Mais sans attendre... ça ne s'arrange pas, dis donc. Sans attendre Noël, c'est pas toi qui vas me l'acheter, mon cadeau, j'ai bien compris. Eh bien, Méprisons tout de suite sur Transistor.
Rendez-vous sur la lande, à l'endroit où c'était pris. Les gens sont des légendes, mais leurs âmes prennent le maquis. Dans les herbes folles, tu peux courir, c'est pas un jeu.
Alors encore, je permettrai des remarques, bien sûr, sur Julien Doré, sur Benjamin Biolay, mais aucune remarque ne sera tolérée sur Alain Bachung.
C'est juste le fait que tu l'appelles Chung Baba qui est, oui, qui est bizarre.
Bah écoute, tu sais pas comment je t'appelle en privé, hein. Alors...
je préfère pas savoir ce que tu fais quand tu m'appelles en privé.
J'ai des piles, pose la question de la dignité, un peu de dignité, Florent, à ce micro. Celle-ci, elle se pose d'autant plus hein, quand on lit des témoignages comme celui-ci qui va faire redescendre l'ambiance tout de suite hein, à propos du centre pénitentiaire de Nouméa. Je cite. La maison d'arrêt est composée de cellules de 12 mètres carrés, où cohabitent jusqu'à 6 personnes, alors que selon les normes hein, définies par l'administration pénitentiaire, il ne devrait pas y avoir plus de 2. Chaque cellule comporte 3 lits superposés d'un côté, 2 lits superposés de l'autre côté et souvent, entre les deux rangées de lits, un matelas posé à même un sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards. Alors on pourrait croire qu'il s'agit d'une situation qui remonte au début du XXe siècle, mais pas du tout. Il s'agit des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté et elles datent, ces recommandations, du 30 novembre 2011. Et cette situation, on la retrouve en métropole hein, également. Par exemple, le 25 avril 2013, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait à l'unanimité la France suite à l'action intentée par une personne détenue à la maison d'arrêt Charles III de Nancy qui présentait un taux d'occupation de 123%. Alors j'ai pris cet exemple, hein, mais des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, il y en a à l'appel. Bref, Nina, Simon, vétusté, surpopulation, les prisons, c'est la honte de la France ?
Un peu, oui.
C'est une honte et c'est aussi un reflet des priorités de la France, ou plutôt des non-priorités de la France.
On s'occupe pas des prisons.
On peut dire ça, ou alors on s'en occupe trop aussi, dans un certain sens. Enfin,
oui,
tout dépend de quel point de vue on se place.
Justement, je parlais là de cette situation à Nouméa, ils sont 6 dans un endroit où à peine à 2, ça serait déjà invivable, hein. Faut bien le dire, 12 mètres carrés, hein, c'est pas l'hôtel Le Ritz. Hein. Pour c'est lutter sûr. Contre la surpopulation, il faut plus de moyens financiers pour construire plus de places de détention, c'est ça la solution ?
J'ai un avis divergent. Construire plus pour faire plus de places, ça revient à incarcérer plus aussi. Et puis ça revient à aussi, je pense, enfin c'est très difficile ce phénomène, il est beaucoup discuté. Est-ce que rajouter des places en prison, ça permet d'avoir un meilleur confort de vie en prison ? Je pense pas que ce soit la solution. Je pense que la solution, elle est ailleurs. Il faut chercher la cause, et la cause, elle est peut-être dans le système en lui-même, le système pénal, le système carcérale. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une alternative à ça?
Dans les positions de Genepi, adoptées lors de l'AG du 15 juin 2014, il y a ce sous-titre, hein, « Construction, piège à con ». Dans le paragraphe qui suit, vous dénoncez notamment l'inadéquation relative des nouvelles prisons, comme la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, inaugurée en 2009. Alors, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces nouvelles prisons, comme celle de Corbas ?
Elles sont très froides, déshumanisées. Il y a des vitres, en fait, les personnes ne communiquent pas. À Saint-Paul, donc Corbas a remplacé Saint-Paul, il y avait un grand hall où tout communiquait. Les surveillants avec les personnes détenues pouvaient communiquer, les détenus entre eux. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, on voit dans les salles d'atelier, quand ils essayent de parler, appeler un surveillant, ils doivent crier à la porte, vraiment très fort. Enfin, c'est froid. Enfin, quand on sort de là-bas, moi, je sais que je suis vide d'énergie, on le dit tous. Je ne sais pas comment... Comment c'est possible de rester jour et nuit là-bas?
Et alors du coup, vous êtes contre le tout carcéral, on l'aura compris. Simon, tout à l'heure, tu commençais un peu à dire ça. Mmh. C'est quoi, si on ne met pas les gens en prison, qu'on veut en mettre moins en prison? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions? Les autres solutions à la détention?
Ah, on en a plein.
Ouais, vas-y, vas-y.
On a toutes les peines alternatives... j'ai déjà peut-être les travaux d'intérêt généraux, tout simplement. Ouais. Parce que là, quand on regarde, c'est quand même peuplé de personnes qui ont commis des délits mineurs. Donc, ça va du deal à la consommation de stupéfiants, des choses qui ne mettent pas vraiment en danger, en fait, la société. Il n'y a pas réellement besoin d'un enfermement. Enfin, pour parler d'un enfermement, je trouve que c'est assez dur.
Il y a trop de gens, Simon, en prison pour des délits mineurs?
Bien sûr, beaucoup de pour vol de portable, par
exemple. Pour la majorité, en fait. La majorité des personnes détenues. Enfin, on a beaucoup de clichés. Moi, quand je parle du Genepi, j'interviens là-bas, tout de suite, on me dit qu'il doit y avoir plein de violeurs. Non, en fait, on a principalement des personnes qui ont commis des petites infractions, en fait, comme ça pourrait arriver à beaucoup de monde.
Alors Nina, tu parles de clichés. On va essayer de les démonter et ça sera le quart d'heure polémique. On a entendu votre discours, il y en a un autre et je vais m'en faire l'avocat, pas par conviction personnelle, mais pour susciter le débat. Vous parlez de dignité des conditions de détention, mais leur dignité, les personnes détenues, est-ce qu'elles l'ont pas perdue le jour où elles ont commis ce crime ou ce délit?
Absolument pas, ça arrive à tout le monde de déraper. Après, il y a plusieurs problématiques, là c'est très difficile de répondre rapidement, mais il y a à la fois l'erreur, le fait où les circonstances de vie difficiles poussent à faire quelque chose, et d'un autre côté il y a la répétition ou la maladie, peut-être aussi quelque chose qui va se reproduire, je sais pas moi, quelqu'un qui viole et qui reviole, c'est compliqué. Même les actes les plus cruels restent humains.
Est-ce que vous comprenez, je continue dans ces clichés pour les démonter, est-ce que vous comprenez que pour certaines personnes, et notamment pour les victimes, même pour les délits, on parle de délits mineurs, les alternatives à la détention, souvent c'est considéré comme du laxisme?
Non, je pense que c'est juste qu'ils sont bloqués dans un système d'esprit de vengeance, en fait. Je pense pas que ça fasse réellement du bien aux victimes de se dire « Ah bah elle a pris 15 ans en fait ». Enfin moi je dormirais pas bien personnellement. Après, moi je parle de médiation parce que je fais mes études là-dedans. Et une personne victime, en parlant avec l'auteur des faits, va clairement plus comprendre l'acte. Si une mamie s'est fait voler son sac, elle va lui demander « Mais pourquoi mon sac ?» Alors l'auteur des faits va lui expliquer « Parce que t'étais vieille et que c'était plus facile. » Et là, c'est peut-être juste ça qu'elle avait besoin d'entendre au final. Et c'est le système qui va nous pousser à vouloir réclamer la plus grosse peine en fait. Possible.
Alors vous comprenez que cela peut choquer, je continue à danser, cela peut choquer, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, même pour un crime, avec les remises de peine, avec la libération conditionnelle, avec les alternatives à la prison, finalement une personne condamnée, elle purge rarement la totalité de sa peine. Est-ce que c'est vrai déjà? Et est-ce que vous comprenez que ça choque?
Alors c'est vrai, oui. C'est vrai, oui, puisqu'il y a un système qui fait qu'il y a une peine qui est prononcée par un juge. Et que cette peine, elle va être ensuite exécutée et adaptée du coup à la personne qui va purger cette peine. Et cette adaptation, elle passe par une réduction, mais ça peut être aussi une augmentation. Donc la peine prévue au départ peut autant augmenter en fonction du comportement que réduire en fonction du comportement que va avoir le détenu.
Le cliché, c'est de voir toujours que ça ne fait que diminuer. Toi, tu te dis, non, ça peut aussi augmenter puisque c'est personnalisé.
Effectivement, ça peut aussi augmenter. Tout dépend du comportement. Quelqu'un qui a un bon comportement, il va avoir le droit à des remises de peine, et plusieurs types de grâces qui font qu'ils vont faire moins. Mais ça peut très bien aller dans l'autre sens.
que ça choque, moi non plus, je comprends pas. Enfin, quand on parlait des victimes, si on a une victime, moi j'espère que derrière, bah, la personne incarcérée va peut-être être mon voisin. J'espère qu'elle va pouvoir se réinsérer. Donc c'est pas en lui augmentant sa peine, lui augmentant, que derrière elle va se réadapter à la société. Au contraire, plus elle va rester, plus ça va être compliqué la sortie en fait.
Bon, alors on va refermer la parenthèse réaco-polémique et je vais citer de nouveau les positions du Génépi adoptées lors de cet AG du 15 juin 2014. Je cite « Cette augmentation à comprendre du nombre de personnes détenues. Cette augmentation ne semble pas liée à une explosion de la délinquance, contrairement à ce qu'aiment à prétendre certains lobbies sécuritaires, mais bien à une politique pénale délibérée qui va dans le sens d'une répression toujours plus forte. » En réalité, hein, Simon, Nina, plutôt que de crier au laxisme, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt crier au caractère trop répressif de l'État français ?
Quand je disais tout à l'heure que des personnes qui commettent des vols de portables se retrouvent en prison, c'est pas une blague, et je trouve ça aberrant.
Oui, il y a une espèce de prévention pénale à se dire, on a des textes de loi pour tout, donc on est tranquille. Mais derrière, bah, il faut assurer, si on a un texte de loi pour ça, on a une peine et du coup, bah voilà, la peine, c'est souvent la prison.
Alors on parle de répression, de justice, de détention sur Transistor. Alors comment ne pas penser à la plus célèbre des chansons à propos d'une controverse judiciaire, Here's to You, à propos de l'affaire Sacco et Vanzetti, survenue dans les années 20 aux États-Unis et mise en chanson par la divine Joan Baez, qu'on écoute tout de suite sur Transistor. Pour une réinsertion sociale des personnes détenues qui fonctionnent vraiment et qu'on en donne les moyens. Et également, vous militez pour une plus grande mixité dans l'univers carcéral. En effet, hein, parmi les évolutions que connaît la prison, il y a cette féminisation du personnel pénitentiaire. En 2012, les femmes, c'était 20% du personnel de surveillance, alors que c'était 7% en 91. Alors même que le ratio du côté des personnes détenues, c'est 3% de détenus féminins et 97% de détenus masculins. C'est important qu'il y ait plus de mixité en prison, ça va dans ce sens de plus de liens qui est tissé.
Oui, quand on sort, il y a des femmes.
Ben oui, c'est tout bête, mais oui. C'est important cette mixité.
Oui, clairement.
Et c'est pas un peu dangereux ? Parce que tout de suite, voilà, tu parlais tout à l'heure de viol, etc. C'est pas un peu dangereux pour une femme ? Toi, en plus, t'es bénévole, tu peux en parler.
Bah oui, moi, je suis une femme, j'interviens, il y a 10 hommes, je me sens pas du tout en danger, pas une seule seconde.
Et t'as l'impression que c'est important qu'ils voient autre chose que le copain de détenu, etc., qu'ils voient aussi une présence féminine.
Ouais.
Tu le ressens comme ça ?
Oui, enfin, on me l'a déjà dit, ça fait du bien, un peu de douceur. Je pense que les femmes amènent un peu de douceur.
Bon, avant de vous laisser avec Mégone, qui aussi sont spécialistes dans la douceur, je vous pose pour ma part une dernière question qui est rituelle dans cette émission. En quelques mots, c'est quoi pour vous l'engagement associatif ?
C'est des convictions qu'on met en acte à travers une association qui recoupe des valeurs qu'on peut avoir personnellement.
Simon parle de conviction, Nina, qu'est-ce que tu mettrais comme mot sur ton engagement associatif ?
Conviction.
Aussi, pareil.
Et douceur.
Conviction et douceur. Très bien, voilà. Je vous laisse maintenant avec Mégone et leurs questions après ce jingle.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Petite question sur la punition. Bon, alors, une incarcération, c'est toujours une punition. Et est-ce qu'il y a un travail qui est pensé sur, pourquoi pas dans les écoles, parler de la punition, parce que finalement, tous ces préjugés qu'on a, c'est on se dit, tu as fait le mal, tu vas être puni. Mmh. Voilà. Et est-ce que du coup, comment est-ce qu'on pourrait parler de la punition à des enfants et même à des adultes qui vont éduquer leurs enfants ?
Oui, bah ça c'est sûr que ça commence. C'est hyper intéressant de parler de ça en fait, parce que ça commence à l'enfance, de comment punir son enfant. Après, je pense que c'est assez personnel quand on est parent de nous dire comment éduquer son enfant, comment le punir, la fessée, pas la fessée. Enfin, on l'a vu, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Après, moi personnellement, je pense que la punition, c'est pas une solution. Il faut plus amener à réfléchir l'enfant sur ce qu'il a fait. Je vois ma sœur qui est maîtresse, par exemple, elle donne, quand l'enfant a fait une bêtise, elle leur donne une fiche de réflexion. Donc ils partent, et pourquoi j'ai fait ça, et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, et qui est-ce que j'ai touché avec cet acte, la maîtresse, le directeur, mes camarades. Et ça amène une réelle réflexion, je pense.
En France, c'est malheureux, mais l'éducation est souvent résumée justement à la punition, à la sanction. Mmh. Que ce soit dans la petite enfance, à travers les punitions en tant que telles, ou à travers le système de notation aussi. On voit toujours ça comme ça, mais parler de punition, c'est aussi parler d'éducation, du coup. Et c'est vrai que c'est très important. On parlait de tout à l'heure de solutions à apporter à un système pénal répressif, trop répressif. Peut-être que cette solution est dans l'éducation, justement.
Alors lui, je ne sais pas s'il a été très bien éduqué. En tout cas, il vous pose quand même une question. Florent ?
Alors moi, j'avais une question par rapport à la privatisation des prisons qui a commencé notamment sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça a changé profondément quelque chose ? Et qu'est-ce que ça a changé ? Parce que c'était censé améliorer à la fois faciliter pour l'État la construction de prisons et en même temps théoriquement améliorer les conditions de détention puisqu'on pouvait construire plus vite et donc plus adapté. Qu'est-ce que ça a changé en réalité ?
Moi, j'ai eu un témoignage d'une personne incarcérée qui disait que ça a changé le catalogue pour cantiner, qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes produits et qu'ils n'avaient plus les gâteaux qu'ils voulaient, les dentifrices, les gels. Ça avait changé ça et en fait, c'est leur quotidien, donc c'est déjà beaucoup.
Mais ça l'a changé en... Enfin, ils ont plus les mêmes produits. D'accord. C'est plus cher, c'est... Enfin,
C'est que ce n'est pas les mêmes produits, en fait, du coup. D'accord. Il y a des partenariats et apparemment, ils n'ont pas les mêmes produits qui leur sont proposés.
Marie-Ève.
Justement, ce ne sera pas une question décalée, mais ce sera une question du quotidien. J'aimerais bien que l'un de vous deux nous raconte en quelques mots comment se passe une visite concrètement quand vous, justement, faites circuler les savoirs.
Alors une visite, on rentre, avec Simon on a compté, on a 18 portes, on s'amuse à chaque fois. On attend à chaque porte, d'abord il y a la fouille où on passe comme à un avion en fait, comme à l'aéroport. On descend parce que les salles d'activité évidemment elles sont au sous-sol, sinon c'est pas rigolo. Et on rentre dans la salle et on attend, on a souvent des soucis avec les listes, on attend que les personnes viennent. Et quand les personnes sont là, si elles ont pas en même temps musculation ou promenade ou parloir, elles peuvent assister, parce que le souci c'est qu'elles ont souvent plein d'autres choses en même temps, ils peuvent pas tout faire, donc ils mettent tout au même moment en fait. Et ensuite y a une heure et demie, deux heures, ça dépend le créneau qu'on a, ou selon en fait le type d'atelier qu'on a mis en place, parce que ça peut être là en ce moment on est art plastique, il y en a d'autres qui font des débats autour de questions d'actualité. C'est assez varié, il y en a qui font du rap à l'EPM, graffiti. Et donc on met en place toute notre petite activité pendant une heure et demie. Et ensuite on s'en va, un peu triste.
Par les 18 portes.
Par les 18 portes.
Alors merci, hein. Merci d'être venus Simon et Nina pour nous parler du Genepi. Plus d'informations sur votre site www.genepi.fr.